Mais tout le monde se laisse travailler au moins en pensée par ce fantasme refaire sa vie. Alors à quoi correspond-il ? Bien, peut-être à deux choses. Premièrement, je pense à la volonté de vivre plusieurs vies, de s'émanciper de notre finitude. André Gide écrit dans Les nourritures terrestres la chose suivante. La nécessité de l'option me fut toujours intolérable. Choisir m'apparaissait non tant élire que repousser ce que je n'élisais pas. Je comprenais épouvantablement l'étroitesse des heures et que le temps n'a qu'une dimension. C'était une ligne que j'eusse souhaitée spacieuse et mes désirs en y courant empiétaient nécessairement l'un sur l'autre. Je ne faisais jamais que ceci ou cela. Et si je faisais ceci, cela m'en devenait aussitôt regrettable. Et je restais souvent sans plus oser rien faire, éperdument et comme les bras toujours ouverts, de peur, si je les refermais, de n'avoir saisi qu'une chose. Voilà le problème d'une vie, c'est qu'on ne fait jamais que ceci ou que cela. On ne fait jamais ceci et cela. Et je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase qui est célèbre dans les nourritures terrestres. Le narrateur gidien, justement, se penche à la fenêtre d'une maison. Il épie le foyer qui vient de se reconstituer et il écrit la chose suivante. « Famille, je vous hais. Foyer clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur. » Hein, il se moque de ces gens, justement, qui n'ont choisi qu'une vie, alors que lui, par le voyage, essaye de les expérimenter toutes. Et donc, partir sur les routes, c'est sa devise, hein, pour justement rouvrir toutes ces portes refermées. Donc, on pourrait dire que refaire sa vie, ça peut correspondre à la volonté de vouloir agrandir son existence. Mais refaire sa vie, c'est aussi, je crois, une expérience plus négative qui consiste à vouloir se délivrer de sa propre vie comme d'un poids devenu trop lourd. Et l'exigence refait surface, souvent, chaque fois qu'un obstacle se présente sur le chemin que nous avons choisi. Quand la route devient trop monotone, quand notre vie est comme rétrécie par les décisions prises, par les paroles prononcées, par les erreurs commises, par les habitudes contractées. D'un coup, notre vie se réduit comme une peau de chagrin. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film de Sam Mendes qui est sorti, je crois, il y a 2 ans, Les Noces Rebelles, où on voit le couple phare du cinéma hollywoodien qui était dans Titanic, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, donc, qui ont été les rois du monde à un moment donné, et qui se retrouvent plongés dans une banlieue américaine des années 50, et ce couple a toujours voulu fonder son existence sur des idéaux élevés, et là il se retrouve piégé dans une inertie banlieusarde, dans un quotidien qu'ils se mettent à détester. Lui n'aime pas son travail, elle échange des recettes avec ses voisines, donc c'est déjà plus très héroïque, hein, comme existence. Et c'est là que, pris au piège, vous voyez, par ces décisions prises, par ces habitudes, par ce passé, eh bien, ils se prennent à vouloir refaire leur vie, et la refaire de manière spectaculaire, puisque Kate Winslet trouve une photo de son mari lorsqu'il était jeune, en bas de la tour Eiffel, et elle imagine qu'ils vont partir du coup à Paris, refaire leur vie. Alors le film, je raconterai un peu à la fin tout à l'heure, va se terminer assez tragiquement, mais peut-être parce que justement on ne sait pas correctement refaire sa vie. Alors j'y reviendrai. Vous voyez que ce que je veux dire par là, c'est que on se sent comme pris à la gorge parfois par notre passé, parce qu'il est comme un poids qui enferme notre présent dans les gestes déjà posés, qui scelle le présent et qui, par son inertie, donne une direction à notre existence qui semble interdire le changement. Le passé donne une pente. Et on a l'impression que notre présent n'est plus vierge et que le changement, la nouveauté n'est plus possible. Et pourtant, j'ai envie de dire, cette direction, c'est bien celle que nous avions choisie. Elle ne nous a jamais été imposée. Cette carrière, cette femme, personne ne nous a obligés à les épouser. Et voilà le paradoxe, c'est que nous nous sentons piégés par notre propre liberté. Et c'est ce qui nous rend mal à l'aise. Comment est-ce que la liberté, mon pouvoir de choisir, a pu se retourner en son contraire? Et donc, réaction de notre part, un peu comme un enfant capricieux, excédé d'avoir gribouillé trop rapidement sa page, de l'avoir remplie trop vite, demande vite une nouvelle feuille vierge. Eh bien, nous aussi, nous aimerions pouvoir tourner la page, comme on dit, refaire sa vie, aller de l'avant, rebondir, prendre un nouveau départ, repartir à zéro. Et il y en a des expressions comme ça. Et tout se passe comme si la véritable liberté se révélait à nous, plus dans le pouvoir de défaire ce qui a été fait, de maintenir tous les possibles comme ça encore en suspension, que de faire ou que d'élire, que de s'engager dans une voie. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'une vie humaine ne se refait pas, comme on recommence un gâteau trop cuit ou une partie perdue après un divorce, et ben il reste l'enfant, on le rappelait par son visage que l'on s'est aimé. Après une faute, il y a la responsabilité qu'il nous faut assumer. Après un geste maladroit, il y a le regard de l'autre qui sans cesse nous rappelle la maladresse. Bref. Et on doit commencer par admettre, au début de cette réflexion, que l'homme est cet animal étrange qui ne sait pas oublier et qui ne sait pas totalement recommencer. En tout cas, qui ne peut pas repartir à zéro. Et en tout cas, refaire sa vie ne pourra pas relever d'une pure et simple amnésie. Il faudra faire avec ce qui a été fait. Et c'est ce que nous dit Nietzsche dans le premier texte, le premier extrait que j'ai sélectionné. Il nous montre que, contrairement à l'animal, l'homme ne sait pas recommencer, ne sait pas oublier. Alors je le lis. « Quoi qu'il fasse, l'homme, qu'il s'en aille courir au loin, qu'il hâte le pas, toujours la chaîne court avec lui. C'est une merveille. Le moment est là, en un clin d'œil. En un clin d'œil, il disparaît. Avant, c'est le néant. Après, c'est le néant. Mais le moment revient pour troubler le repos du moment à venir. Sans cesse, une page se détache du rôle du temps. Elle s'abat, notre passé, va flotter au loin pour revenir pousser sur les genoux de l'homme. Alors l'homme dit « Je me souviens ». Et il imite l'animal qui oublie aussitôt et qui voit chaque moment mourir véritablement, retourner à la nuit et s'éteindre à jamais. C'est ainsi que l'animal vit d'une façon non historique, car il se réduit dans le temps, semblable à un ombre, sans qu'il reste une fraction bizarre. Il ne sait pas simuler, il ne cache rien et apparaît toujours pareil à lui-même, sa sincérité est donc volontaire. L'homme, par contre, s'arc-boute contre le poids toujours plus lourd du passé. Ce poids l'accable ou l'incline sur le côté, il alourdit son pas, tel un invisible et obscur fardeau. Il peut le renier en apparence, ce qu'il aime à faire en présence de ses semblables, afin d'éveiller leur jalousie. C'est pourquoi il est ému, comme s'il se souvenait du paradis perdu lorsqu'il voit le troupeau au pâturage, ou aussi, tout près de lui, dans un commerce familier, l'enfant, qui n'a encore rien à renier du passé, et qui, entre les enclos d'hier et ceux de demain, se livre à ses jeux dans un bienheureux aveuglement. Et pourtant, l'enfant ne peut toujours jouer sans être assailli de troubles. Trop tôt, on le fait sortir de l'oubli. Alors, il apprend à comprendre le mot « il était », ce mot de ralliement avec lequel la lutte, la souffrance et le dégoût s'approchent de l'homme pour lui faire souvenir de ce que son existence est au fond, un imparfait à jamais imperfectible. Quand enfin la mort apporte l'oubli tant désiré, elle dérobe aussi le présent et la vie. Elle appose en même temps son sceau sur cette conviction que l'existence n'est qu'une succession ininterrompue d'événements passés, une chose qui vit de se nier et de se détruire elle-même, de se contredire sans cesse. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Nietzsche dans ce texte? Alors, il dit beaucoup de choses, je ne vais pas tout commenter, je vous laisserai, d'ailleurs si vous voulez aller lire la seconde considération intempestive, il développe encore plus sur cette idée du rapport au temps, l'animal et l'homme. Il dit en substance que être un homme, c'est avoir un certain rapport au temps. C'est vivre dans un temps où le présent et l'avenir sont nécessairement solidaires du passé. Le moment revient pour troubler le repos du moment à venir. La page du passé se détache mais nous revient en plein visage, sur les genoux, dit Nietzsche. Alors pourquoi est-ce que nous ne savons pas, comme l'animal, vivre dans l'instant? Parce que nous sommes des êtres conscients. Et la conscience, c'est la faculté d'être présent à soi, de se regarder. L'animal, lui, est absorbé un peu dans son action, dans le sentiment confus de ce qu'il fait. Il colle avec ce qu'il vit et il ne se détache pas de lui-même, ou peu. alors que l'homme, lui, peut se mettre à distance de ce qu'il fait pour s'observer. Et donc, il a cette possibilité de se donner en spectacle lui-même. Et donc, de se donner en spectacle son futur à travers des projets, mais aussi son passé à travers la mémoire. Hein. La conscience est mémoire. Je considère ce que j'ai fait. Je considère ce que je vais faire. Une anticipation. Et donc, vous voyez que l'homme, à cause, grâce à la conscience, il vit toujours un peu en arrière de lui-même et en avant de lui-même. Hein. Il est jamais, il coïncide jamais complètement avec lui-même. Pascal dira que justement, on erre toujours dans des temps qui ne sont point nôtres, le passé et l'avenir, et que justement, on oublie de vivre le présent. L'animal, lui, je suppose que vous avez tous regardé un chat dormir sur un canapé, et vous êtes peut-être dit que le bonheur, ça devait ressembler à ça, c'est-à-dire une sorte de présence pleine à soi, qui est inquiétée par rien, ni du passé, ni du futur. Voilà. Une sorte d'adhérence à soi. Mais avoir une conscience, c'est nécessairement devoir reconnaître qu'on ne peut pas adhérer ainsi à soi. On est toujours divisé. On est toujours un peu étranger à soi. Hein. On se regarde. Et ça, bah, la conscience, hein, ça, c'est un peu le plus grand malheur, hein. Même si ça va nous permettre d'autres choses. Alors, Nietzsche qualifie donc la condition de l'animal de non historique. Lui, il vit, voyez, attaché au piqué du moment, de l'instant, rivé aux besoins. Alors, bien sûr, il est clair, tant soit peu, l'avenir, sinon il n'aurait même pas de réflexe, d'instinct, mais il éclaire très peu. Et je pense qu'on pourrait, distinguer le texte nous le pousse à. À cette distinction, l'instant et le présent. On peut dire que l'animal vit dans l'instant, c'est-à-dire que les instants, vous voyez, c'est de l'ordre du point. Hein. L'instant, c'est un point sur la ligne du temps qui est sans lien avec les autres instants. L'instant est perpétuel recommencement. Alors que l'homme vit plutôt dans le présent. Et vous voyez, le présent, c'est pas un point. Je dirais plus, c'est un segment. Ce segment, il est fait du passé et de l'avenir. Et pour vivre au présent, c'est quoi? C'est donner à mon existence toute l'épaisseur de mes expériences passées et aussi tout le goût de mes projets à venir. Le présent, il est fait de tout ça. Il est fait de mon passé et de mon avenir. Et donc, il ne peut pas être réduit à une sorte d'îlot clos sur lui-même et à un recommencement vierge. Impossible. Ça serait même la possibilité d'avoir une identité qui serait compromise. Donc, je m'attarde pas plus sur ce texte, mais ce que je voulais commencer par dire, c'est qu'il est impossible de refaire absolument sa vie, de faire de chaque instant une sorte de création ex nihilo à partir de rien, et d'oublier totalement. Hein. L'homme ne peut pas recommencer à zéro. Mais cependant, avoir une conscience, c'est pas simplement être le spectateur passif de soi-même. On n'est pas simplement en train de se regarder, de constater, désabuser que ce qu'on a fait, c'est pas ce qu'on voulait faire. Cet écart par rapport à soi va ouvrir aussi une possibilité de changement, d'échappement, d'arrachement à soi. Parce que précisément, c'est parce que je me regarde que je vais pouvoir me remettre en question. Que je vais pouvoir critiquer les décisions prises. Je vais pouvoir me dire, tiens, c'est pas terrible ce que j'ai fait, si je faisais autre chose. Et évidemment, je vais devoir assumer mon existence. Mais Nietzsche dira plus loin dans ce texte de la seconde considération intempestive que, grâce à la conscience, l'existence reste, comme il dit, plastique. C'est-à-dire qu'elle peut être modifiée. Que mes décisions, sans pouvoir les annuler, je peux néanmoins les confirmer ou les infirmer. Sans forcément engager une révolution, je peux entreprendre une réforme de mon existence. Je peux la réorienter, la détourner peut-être, comme on détourne le lit d'une rivière. Et il montre que l'homme doit néanmoins apprendre de l'animal, apprendre à oublier et à recommencer. Et cette force plastique, hein, dont il parle, alors je le cite, c'est cette capacité qu'a un homme, un peuple, une civilisation de se développer hors de lui-même d'une façon qui lui est propre, de transformer et d'incorporer les choses passées ou étrangères, de guérir des blessures, de remplacer ce qui est perdu, de refaire par soi-même des formes brisées. Alors, voilà ma question ce soir. Qu'est-ce que c'est justement cette force plastique? Comment est-ce qu'on peut changer de vie si le passé ne peut pas être oublié ou effacé? Comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Nos nouveaux départs restent bien souvent artificiels. Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace, mais on reste le même. D'accord? On va trimballer notre ennui, notre même ennui et notre même quotidien à New York, à Londres, mais en fait, on reste les mêmes. Et on traîne au bout du monde eh bien, les mêmes obstacles, les mêmes erreurs, les mêmes impasses. Nous nous déplaçons, mais rien ne change. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il s'avère souvent vain et contre-productif de prétendre choisir du jour au lendemain une nouvelle existence. Souvent, dans ce genre de situation, on se retrouve comme paralysé. D'ailleurs, dans Les Noces Rebelles, précisément, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet finiront par rester dans leur pauvre existence. D'ailleurs, ça se finira tragiquement, parce que même finira par se tuer en avortant de l'enfant qui naît en elle. Et en fait, ce que je soupçonne, c'est que nous sommes habités par une forme de mystique de la liberté et par une conception de l'action un peu grandiose et grandiloquente qui rendent en fait les changements problématiques, douloureux et artificiels. Et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est esquisser une autre manière de refaire sa vie, plus humble, moins visible, plus secrète, plus silencieuse, mais peut-être plus efficace. Justement, en me... vous allez voir, j'ai vraiment essayé de penser contre moi, en me tournant vers la pensée chinoise, justement, puisque j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Voilà. Je vais juste faire un mouchoir. Alors, dans un premier temps, je vais développer justement cette conception un peu grandiloquente et héroïque du changement, et puis nous montrer un peu dans quelles impasses elle nous conduit. Alors, nous disions tout à l'heure qu'avoir une conscience, c'est avoir cette possibilité de rouvrir l'espace des possibles. Pourquoi ? Parce que quand j'ai conscience de mon existence, quand je me regarde, je me dis « tiens, j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire l'inverse ». Et l'hésitation, le doute s'emparent de moi. Donc, l'homme est cet être qui peut s'interroger sur ses conduites, les examiner. Et s'interroger, c'est toujours s'exposer au risque d'une réponse négative, voire même d'une absence de réponse. Les objets ne se posent jamais de questions, et d'ailleurs, ils ne courent jamais le risque d'être démentis ou placés devant leur insuffisance. Ils sont pleins d'eux-mêmes, ils sont bêtes, on dirait, inaccessibles au doute et à l'angoisse. Et du coup, ils ne se dépassent jamais vraiment. D'ailleurs, ça ne leur vient pas à l'esprit de refaire leur vie. Et justement, Jean-Paul Sartre dira dans L'être et le néant que l'homme est cet être particulier qui, à cause ou grâce, encore une fois, à sa conscience, est fait d'être et de néant. Et qui, grâce à sa conscience, peut toujours, justement, introduire en lui du nouveau, de son existence du nouveau. Alors que la chose, vous voyez, est ce qu'elle est, et c'est tout. Elle est régie par le principe d'identité et une inertie de la chose. L'homme, lui, peut toujours devenir autre. Il est habité par une forme d'altérité, qui est portée par sa conscience, justement. On peut nier ce qu'il a été. L'homme, je le cite, est cet être qui est ce qu'il n'est pas, et qui n'est pas ce qu'il est. Cela veut dire que jamais aucune action ne m'enferme définitivement, qu'aucun choix, qu'aucune habitude ne me lie jamais. Complètement. Parce que je me perçois, je peux me modifier. La conscience me rend rebelle, quelque part, à tout déterminisme. Alors, justement, pour Sartre, ma conscience fait que mon présent, qu'il y a toujours entre mon passé et mon avenir comme des blancs, et que mon présent est toujours une sorte de page vierge, que les instants que les moments du temps ne conduisent pas nécessairement les uns aux autres, comme dans le déterminisme. Ils ne sont presque pas solidaires. Et que j'ai la possibilité, à tout moment, de refaire ma vie. Même si je ne change rien, en fait, je la rechoisis sans cesse. Et que c'est jamais mon passé qui construit mon existence. C'est toujours mon futur, c'est toujours le projet que je porte qui construit mon présent. Prenons un exemple tout simple. Par exemple, la décision de prendre un parapluie pour sortir. Eh bien, Sartre dirait que c'est pas parce qu'il pleut, c'est pas parce que je vois qu'il pleut, mais parce que je me projette ayant un rhume et que j'estime que c'est dommageable. Donc je prends un parapluie. Mais je pourrais me vouloir négligent, je pourrais me vouloir personne qui s'en fiche d'avoir un rhume. Voilà. Les actions et les décisions de la conscience ne sont pas déterminées par des causes qui les précèdent, mais par des estimations libres, par le projet que je projette justement dans l'avenir. Et c'est pour cela que, en toute rigueur, Sartre, je puis à tout instant refaire ma vie. Et c'est d'ailleurs ce que je fais, même dans l'habitude et même dans la routine. Et c'est ce que j'essayais d'expliquer cette semaine à mon ami qui est en train de faire un burn-out. C'est que chaque jour, je me choisis et je me rechoisis de la même manière. Mais c'est un choix. Je ne suis pas portée de manière aveugle par mon quotidien. Mais c'est mon projet qui, renouvelé de jour en jour, porte mon quotidien. Si je vais au lycée chaque jour, parce que j'enseigne la philosophie, c'est pas par habitude de manière mécanique, mais c'est parce que chaque jour, je me choisis prof de philo. Si je retourne chercher mon fils, c'est que je me choisis mère de famille, dirait ça. C'est que je renouvelle, je réitère tous les jours ce projet. Et je ne peux pas me dire victime de mon existence. Je ne peux pas dire qu'elle me contraint, mais je dois reconnaître que je choisis de la continuer d'une certaine manière. Et je pourrais me choisir autre à tout moment de ma vie. Mes projets pourraient être différents. Et donc, pour Sartre, quelque part, refaire sa vie, c'est une possibilité toujours présente. Et justement, qui se fait croire, celui qui se fait croire qu'il ne l'a pas, que ça y est, il est bloqué dans une routine, dans un quotidien, et ce qu'il appelle de mauvaise foi. Je pense que vous avez déjà entendu ce concept, Sartrien, la mauvaise foi. Alors, on la développera tout de suite, mais avant, vous devriez me faire une objection. Vous pourriez me dire, mais il y a quand même toute existence des données que j'ai pas choisies et qui m'affectent à mon insu et que je ne peux pas refaire justement à ma guise. Alors Sartre en est bien conscient, il appelle cela la facticité. Je suis née dans une société, à une certaine époque, j'ai un corps qui me détermine d'une certaine manière. Bref, ma place, mon passé, tout ça, Sartre le perçoit bien. Mais ma place, mon passé, mes entours, l'existence de l'autre, ma mort, vous voyez, ça je l'ai pas choisi non plus, ma naissance non plus, sont autant de faits qui s'imposent certes à moi, mais je ne suis pas passif devant ces faits. Cette passivité, ça risque souvent d'être encore une excuse, nous dit Sartre. J'ai encore une marge de manœuvre face à cette facticité. Est-ce que je vais choisir de la subir de manière passive, d'y trouver une excuse? Ou alors, est-ce que je vais choisir d'en faire autre chose? Je dois encore, il y a encore une marge de manœuvre, je dois encore donner sens à cette situation. Mon corps, mon passé, j'ai encore à en faire quelque chose, j'ai encore à le soutenir par un projet de ma conscience. Donc, pour ça, ce ne serait pas vraiment une objection. Et si on prend au sérieux le fait de qu'implique avoir une conscience, il faut avouer que la possibilité de refaire sa vie est toujours présente. Et qu'en fait, ma vie, je la refais tous les jours sans m'en rendre compte. Qu'elle ne fait jamais boule de neige. Qu'elle n'est jamais sur des rails que je ne maîtrise plus et qui me portent tout entier. Aucune condition ne m'arrête définitivement. On réalise des projets, mais aucun projet ne devient totalement ce que nous sommes. Et justement, c'est ce que je crois que le cas que je vous citais tout à l'heure, ce qui est arrivé à mon ami qui fait un burn-out, c'est qu'il a l'impression que ça y est, sa vie ne la maîtrise plus, elle a fait boule de neige, elle est devenue une sorte de quotidien nécessaire sur lequel il l'a prise, mais sans se rendre compte qu'en réalité, ce quotidien, il le choisit, il le rechoisit, il en est responsable tous les jours. en réalité. Il le soutient par son projet. C'est pas, il lui est pas devenu étranger. Voilà. Mon existence, pour Sartre, reste toujours inconsistante. Il y aura toujours, chaque matin, et en fait, une page blanche, si on le... Alors, évidemment, il y a quelques lignes qui sont tracées, quand même, mais j'ai à finir le dessin. Voilà. Je suis condamnée à être libre, dit-il. Et donc, cette liberté, justement, nous angoisse. Et on se prend, justement, à s'imaginer qu'on ne peut pas refaire sa vie. Et c'est ce qui nous montre, hein, on aime invoquer les fatalités du présent, du passé, on aime invoquer le déterminisme social, notre inconscient, parfois, etc. La liberté nous fait peur, dit Sartre, parce qu'elle nous rend responsables de chaque instant de notre vie, et qu'elle révèle qu'une indétermination habite notre être, et que... quoi que j'ai fait, eh bien, il reste toujours, il y a un décrochage possible, j'ai à prendre en charge chaque instant. Et je ne peux pas prétendre avoir décidé une fois pour toutes. Alors, d'ailleurs, il donne une anecdote, un exemple, dans L'être et le néant, il montre que cette angoisse de la liberté peut surgir, par exemple, lors d'une balade en montagne. Vous longez un parapet, vous longez un précipice sans parapet, et il dit, il y a deux choses qui peuvent vous arriver. Vous pouvez avoir peur de tomber, de glisser sur une pierre et de débarrouler. Ça, c'est la peur, c'est objectif, c'est lié à quelque chose du dehors. Il y a une pierre qui vous fait tomber. Mais vous pouvez, c'est l'expérience du vertige, avoir envie de vous jeter. Et ça, c'est une angoisse provoquée par ma liberté, qui ne vient pas du dehors, mais bien du dedans. C'est-à-dire que rien ne me... Si on suit ça, rien ne me retient complètement, même pas l'instinct de survie. Je ne sais pas ce que je vais vouloir dans l'instant d'après, et peut-être que je me voudrais autre, que je me voudrais celui qui se suicide, que je me voudrais différemment. Et donc, cette liberté m'angoisse, parce que faire face à cette indétermination, ça m'est insupportable. Donc, on construit cette stratégie qu'il appelle la mauvaise foi. On aime à se faire croire que on ne peut pas refaire sa vie. Alors, on se dissimule justement notre liberté en se croyant engagé une fois pour toutes dans un rôle coincé dans une vie qu'on ne peut pas refaire. Et je prends l'exemple le plus célèbre que prend Sartre, qui est resté dans tous les manuels de philosophie, dont j'ai parlé aujourd'hui justement dans mes élèves. L'exemple le plus célèbre que prend Sartre, c'est l'exemple du fameux garçon de café. Le garçon de café, il en est arrivé à un moment de sa vie qui est le suivant. Il est garçon de café, il n'aime pas son métier, mais c'est une chose de ne pas aimer son métier. Il y a une autre chose, c'est de se rendre compte que ce métier qu'on n'aime pas, on l'a choisi. Ça, c'est bien pire. C'est-à-dire que ce malheur hein, de notre existence, finalement, il est le fruit de notre décision et de notre choix. Et donc, pour échapper à ce sentiment désagréable, il va se faire croire qu'il est déterminé à faire ce métier. Il va se faire croire que ce rôle est inscrit dans sa nature. Qu'il est garçon de café, comme cette table est table. Il est une chose et qu'il ne peut pas refaire cette existence. Alors comment va-t-il s'y prendre ? Il va s'évertuer à coller au plus près à sa fonction par des gestes précis, mécaniques, par une sorte de danse automatique. Il va jouer pour les autres, le garçon de café. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend de lui. Et les autres, d'ailleurs, dit Sartre, nous objectivent toujours. Pour eux, on est le garçon de café, on est... ils nous réduisent. Et petit à petit... il va se mettre à croire à ce jeu. À croire à ce jeu qu'il joue pour les autres, mais il va être justement pris lui-même dans ce jeu, pour se mettre à croire à son discours qu'il tient aux autres. Ah, on se refait pas, j'ai pas fait d'études, j'ai grandi dans un milieu modeste, je peux pas faire... Sartre ne dit pas tout ça, mais j'ai pas le choix, je suis obligée de me lever à 5 heures, si vous imaginez mon patron. Voilà. Alors que pourrait se choisir, personne qui se lève, qui arrive en retard, qui affronte son patron et qui se fait virer. Voilà. Mais il se fait prendre petit à petit à son jeu et croit lui-même à son discours. Et c'est ce qui nous arrive bien souvent quand on se fait croire que le passé exerce un joug qu'on ne peut pas secouer sur notre existence. Hein, j'ai toujours été comme ça, on ne se refait pas, hein, comme on dit. On évoque nos traumatismes d'enfance, notre milieu social, etc., nos échecs. Et tout cela agit comme une excuse hein, pour ne pas refaire sa vie. Et souvent, en fait, c'est quand on est ainsi acculé par le passé que le changement va prendre une tournure spectaculaire. En fait, on a l'impression qu'on est complètement bloqué dans une situation et que la seule issue, c'est le basculement. C'est comme le film que j'évoquais tout à l'heure, Les Noces Rebelles, j'habite à New York, dans une banlieue, je pars à Paris. C'est, vous voyez, sa vie, tout d'un coup, on la renverse. On a l'impression que c'est la seule solution. Et généralement, du coup, on fait rien du tout, parce que l'énormité du projet nous paralyse. Et on reste un peu cloué sur place. Alors, moi, je me demande si la mauvaise foi n'est pas inévitable. Je me demande si on peut vraiment supporter cette liberté. La page blanche, ça angoisse tout le monde. Et c'est d'ailleurs souvent devant elle qu'on se met à arriver à n'importe quoi, New York, etc. Et je me demande si une telle conception de la liberté et du changement, je pense que c'est ça en fait qui nous anime dans l'expression « refaire sa vie » inconsciemment. Je me demande si une telle conception de la liberté et du changement ne nous condamne pas à des retournements artificiels et ne nous empêche pas précisément de refaire sa vie. En effet, je ne suis pas sûre que la liberté, ça soit le pouvoir de la page blanche, de pouvoir s'arracher perpétuellement à ce qu'on est. Tout simplement parce que sur cette page, il y a des choses que je ne peux pas effacer, et que je ne peux pas, il ne suffira pas de réinterpréter. Mais aussi parce que choisir et rechoisir chaque jour son existence, c'est une tâche qui serait épuisante et on risque de se laisser morceler justement par des rêves, des désirs contradictoires. Alors j'aimerais dans un second moment esquisser une autre conception de la liberté et du changement, peut-être plus modeste, mais plus efficace. Voilà. Alors justement, pour répondre à cette conception sartrienne, je vous propose un extrait d'un texte de Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception. Précisément, Maurice Merleau-Ponty regrette que Sartre ait trop donné à la liberté. J'en ai fait une conception un peu trop adolescente. Et il dit la chose suivante, donc c'est l'extrait numéro 2. Qu'est-ce que la liberté ? Naître, c'est à la fois naître du monde et naître au monde. Le monde est déjà constitué, mais aussi jamais complètement constitué. Sous le premier rapport, nous sommes sollicités. Sous le second, nous sommes ouverts à une infinité de possibles. Nous existons sous ces deux rapports à la fois. Il n'y a jamais déterminisme et jamais choix absolu. Jamais je ne suis chose et jamais conscience nue. En particulier, même nos initiatives, même les situations que nous avons choisies nous portent, une fois assumées, comme par une grâce d'État. L'habitude vient au secours de la décision, et dans cet échange entre la situation et celui qui l'assume, il est impossible de déterminer la part d'habitude et la part de liberté. On torture un homme pour le faire parler. En fait, là, il reprend un exemple de ça. S'il refuse de donner les noms et les adresses qu'on veut lui arracher, ce n'est pas par une décision solitaire et sans appui. Il se sentait encore avec ses camarades et encore engagé dans la lutte commune. Il était incapable de parler. Ses motifs n'étaient pas sans poids. Ce n'est pas finalement une conscience nue qui résiste à la douleur, mais le prisonnier avec ses camarades ou avec ceux qu'il aime et sous le regard de qui il vit. Nous choisissons notre monde et le monde nous choisit. Concrètement comprise, la liberté est une rencontre de l'extérieur et de l'intérieur. Nous sommes mêlés au monde et aux autres de manière inextricable. L'idée de situation exclut une liberté absolue à l'origine de nos engagements. Le choix que nous faisons de notre vie a toujours lieu sur la base d'un certain donné. Ma liberté peut détourner ma vie de son sens spontané, mais par une série de glissements, en l'épousant d'abord et non par aucune création absolue. Voilà, donc c'est la phrase finale qui m'intéresse. Mais que dit exactement Merleau-Ponty? nous dit on est du monde et on est au monde. Alors, naître du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis bien le produit d'un monde que je n'ai pas choisi et qui me précède. Et que dans la moindre de mes actions, je suis en partie déterminée par mon passé, mes habitudes, mes désirs, transmis par mon éducation, ma langue dans laquelle je pense, ma culture, etc. J'hérite d'un monde qui était là avant moi et qui m'a constituée. Dans ce sens, dit Merleau-Ponty, je suis sollicitée. Je suis poussée à agir. J'ai hérité d'un certain nombre de schémas d'action, si vous voulez, et qui s'active souvent un peu spontanément en moi. Bourdieu dirait, voilà, j'appartiens à un champ, des habitus qui se réactivent dans les différentes situations. Donc, naître du monde, c'est devoir avouer qu'on ne peut pas refaire sa vie n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, et d'ailleurs qu'on ne le veut même pas. Mais il dit aussi, on est au monde. C'est-à-dire qu'on est un être de conscience qui se tient face au monde et que justement, cette réalité n'est pas totalement constituée. En fait, c'est comme si le monde était devant moi comme en pointillé, il y avait différentes possibilités qui s'ouvraient à moi. Je ne peux pas créer absolument du nouveau à partir de rien, mais le chemin n'est pas tout à fait tracé, il est suggéré en pointillé. Et mon choix va prendre appui justement sur ces situations qui me sont proposées, mais c'est à moi de l'actualiser. Prenons un exemple, un élève, je les vois cette année, parce que mes élèves sont tous en terminale, et ils ont à choisir leur orientation. Et donc, ils doivent bien reconnaître qu'ils naissent du monde, au sens où ils ne peuvent pas choisir n'importe quoi, suivant leur passé scolaire, leurs désirs, leur milieu social, leur goût, ils sont conditionnés pour vouloir désirer certains nombre de choses. Mais en même temps, il reste un choix à faire, et en ce sens, ils naissent au monde, hein, comme dit Merleau-Ponty. Et les deux perspectives ne sont pas séparables. Nous sommes dans cette double situation, nous sommes... Il n'y a ni déterminisme absolu, ni choix absolu, hein, comme dit Merleau-Ponty. Et donc, nous sommes engagés dans un monde et on ne peut pas nier cette situation. Alors, les élèves, ils me disent toujours, mais si on veut, on peut, madame. Comme si, en fait, si on veut, on peut, comme si l'action serait un pur produit, si vous voulez, qui émanerait seulement de ma volonté, comme si simplement je naissais au monde. D'une volonté qui pourrait se penser, voyez, hors de son pouvoir, hors de la réalité. Mais l'action, justement, ce que montre Merleau-Ponty, c'est toujours un compromis entre mon pouvoir et mon vouloir. Et il y a des résistances opaques du corps, de l'esprit, que je ne peux pas nier, et que je ne peux pas affronter comme ça héroïquement en me disant « je vais complètement me changer » ou quoi que ce soit. La conscience, elle est bien créatrice, mais elle a à prendre en charge quelque chose qui lui résiste. Et donc, mon passé ne peut pas être complètement nié ou dépassé. En tout cas, Merleau-Ponty va prôner non pas, vous voyez, une révolution de soi, mais plutôt un réformisme attentif à nos contradictions. On ne pourra pas faire table rase du passé, mais c'est ce qu'il dit à la fin. Le passé pourra être détourné, contourné par une série de glissements, mais toujours assumé. Si on prétend l'affronter héroïquement dans une sorte de révolution de soi, généralement, on reste soit sur place, soit on continue à faire la même chose ailleurs. Voilà. Et je pense que ce qu'il nous propose, c'est une autre conception du changement, justement. À travers cette conception plus modeste de la liberté, plus réaliste. Ce qu'il faut en fait chercher, c'est pas le basculement dans notre existence. C'est plutôt la transformation silencieuse. En fait, si on réfléchit bien, les transformations les plus effectives, celles qui sont les plus véritables, c'est celles souvent qui restent inaperçues. Tout d'un coup, l'enfant qu'on a vu bébé nous arrive à l'épaule. Et on ne sait pas exactement quand ce changement s'est produit. Tout d'un coup, une personne qu'on n'avait pas vue depuis 5 ans a pris, comme on dit, un coup de vieux. On ne sait pas quand ce changement a commencé. l'origine est inassignable. Et vous voyez, ça, c'est des transformations qui ne se passent pas comme des renversements brutaux. Pourquoi ? Parce qu'elles affectent le tout de notre être. D'ailleurs, c'est quand on dit « il a pris un coup de vieux », on ne peut pas simplement dire « ah, il a une ride d'expression, il a deux, trois cheveux blancs ». Le coup de vieux, c'est, vous voyez, c'est une allure générale de votre personne. D'ailleurs, qui fait que la chirurgie esthétique qui va réparer, une ride d'expression, en fait, va rien changer, va même accentuer le contraste avec votre dos qui se voûte et votre voix qui devient plus caverneuse ou je ne sais quoi. Donc en fait, c'est pire que tout. Ça met le doigt sur le changement plus que ça ne le fait pas. Je me suis trouvée, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée de raconter ça, je me suis retrouvée par hasard aux obsèques d'Eddie Barclay. Et donc, toutes ces femmes, il y en a eu beaucoup qui défilaient devant moi, toutes habillées en blanc. Et en fait, je me suis rendu compte des ravages de la chirurgie esthétique, parce qu'en fait, à la télévision, on voit qu'il y a vraiment qu'un plan fixe de la personne. Mais là, en vrai, vous la voyez totalement. Il n'y a pas simplement cette femme, il y a Johnny et compagnie. Et ils sont affreux, en fait. Ils sont vraiment affreux. C'est-à-dire qu'on voit les ratés de la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que ça met le doigt sur le changement plus que le reste. Parce que, précisément, la transformation, elle n'est pas ponctuelle. Elle affecte le tout de mon être. Et alors là, je m'appuie pour terminer cette conférence sur un penseur. Alors, je ne sais pas ce que, Vincent, tu en penses, mais j'ai trouvé ça convaincant. Un penseur donc spécialiste de la pensée chinoise qui s'appelle François Julien. C'est bon. Qui oppose justement la transformation et l'action. Et en fait, je trouve que c'est quand même assez judicieux ce qu'il dit. J'ai failli le piller sans le citer, puis je me suis dit que ça se faisait pas, donc je le cite. Alors, justement, il montre que les changements véritables doivent être des transformations, et pas des actions héroïques, comme l'héroïne de Sam Mendes, allez, je pars à New York, je pars à Paris. Alors, François Julien s'est intéressé à la stratégie militaire chinoise, à l'art de la guerre, pour concevoir cette conception du changement. Et justement, il nous montre qu'il y a une manière non héroïque, modeste, silencieuse de refaire sa vie, qui laisse véritablement advenir le changement. Et plutôt que de prétendre projeter, vous voyez, immédiatement sur le cours des choses, des plans idéaux conçus par notre volonté, il montre que le stratège militaire chinois préfère induire des effets et engager discrètement des processus qui vont se développer d'eux-mêmes. Alors, je prendrai des exemples tout à l'heure. Donc, il oppose l'action et la transformation. L'action, c'est ça qui est un peu énervant chez François Julien, qu'il attribue à la pensée occidentale, est une façon, il dit, technicienne, est toujours conçue d'une façon technicienne, l'action. Au centre de l'action se trouve un sujet, cause de lui, clairement distincte de la réalité sur laquelle il va agir. De ce sujet partent des initiatives, des plans, des modèles qu'il a dans la tête. Et ce sujet délibère sur ses plans, ensuite se décide et les fait passer à l'action, les fait entrer dans la réalité. Alors, il y a toujours un moment de forçage, de passage en force, de la théorie à la pratique, de l'intérieur à l'extérieur. Le sujet s'affaire, vise, entreprend, etc. Et on voit que l'action met au centre un moi, un centre décisionnel. Et c'est un peu le modèle du héros, vous voyez, qui est capable de tordre le réel à ses fins. Au héros. L'action, elle peut toujours être racontée. Elle donne lieu à une épopée. D'ailleurs, c'est ça dont on parle, en fait, quand on raconte sa vie. Elle est saillante, elle est ponctuelle, on la remarque, on peut l'attribuer à un sujet qu'elle révèle, justement. Et souvent, on a tendance à considérer que celui, justement, qui n'agit pas est passif, se laisse aller, paresseux, se défait, vous voyez. Mais François Julien montre que, alors Julien c'est avec deux L, que l'action a quelque chose d'artificiel, et que bien souvent nos actions ne sont que des ratifications de transformations plus profondes. Il prend un exemple. Sous l'éclat de la rupture amoureuse, du divorce, en fait, une transformation silencieuse a travaillé. Les premiers premiers évitements, les premières conversations, on n'a rien à se dire. Il y a eu une lente érosion affective. Et tout d'un coup, ben, tout le pan de la montagne s'est effondré. C'est le moment de la rupture, du divorce. Mais voyez, finalement, le moment de la rupture, c'est pas grand-chose par rapport à cette lente érosion affective. Et de même pour le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est pas l'événement comme ça qui nous tombe dessus. Non, on y était préparé, il y avait une sorte d'attente, on était disponible à un coup de foudre. Voilà. Et il nous montre que donc sous l'action, il y a la transformation et qu'il faut la préférer à la transformation. Alors, dans une transformation, il faut accepter de ne pas être au centre. Ce qui se transforme, ce n'est pas seulement moi, mais c'est aussi la situation dans laquelle je suis impliquée. C'est une corrélation de facteurs. La transformation, elle est globale et progressive. Au départ, on ne discerne rien, hein, comme la personne qui vieillit, mais au final, elle est plus efficace. Au final, on a vraiment l'air vieux. Alors, vous allez me dire que les transformations, c'est bien gentil, mais on les subit. Finalement, on est un peu obligé de les regarder passivement. On n'a pas prise sur elles. Comment est-ce que je vais pouvoir refaire ma vie avec des transformations? En fait, je suis défait par les transformations, plus que, vous voyez, c'est quelque chose sur lequel j'ai la main mise. Eh bien, François Julien propose un exemple agricole que j'ai bien aimé, qu'il reprend à un penseur chinois du 3e siècle, Mencius. Enfin, Mencius, je ne sais pas comment il se et qui raconte qu'un paysan qui veut que son blé pousse tire sur les pousses. Et le soir, quand les enfants arrivent, viennent, ben, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout s'est desséché. Vous voyez, en visant l'action directe, il a produit un contre-effet. Et en fait, il ne voit pas que la poussée est dans la situation, que ce blé, cette graine, elle va germer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il reste passivement à côté de son champ à regarder le blé pousser? Non. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce que fait tout bon paysan, c'est-à-dire qu'il va biner, bêcher, sarcler, s'affairer autour, justement, de la pousse pour favoriser la poussée. Eh bien, justement, je crois qu'il en va de même dans nos existences. Je crois que pour refaire sa vie, il faut se concentrer sur ce qui, dans notre existence, peut se prêter au changement. C'est-à-dire, pas d'emblée nous-mêmes et nos intentions, mais peut-être la situation et notre comportement. Tout d'abord, la situation. François Julien développe justement ce qu'il trouve dans l'art de la guerre chinois, dans l'art... chinois de faire la guerre, on dit, si ton ennemi arrive reposé, commence par le fatiguer, s'il arrive rassasié, commence par l'affamer, s'il arrive uni, commence par le désunir, et transforme-le jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à faire, en fait. Et dès que tu l'attaqueras, finalement, il se sera de lui-même défait. Et justement, dans notre existence, bien souvent, il s'agit de faire la même chose, non pas de reconfigurer, vous voyez, notre existence sur un mode idéal à partir d'un plan que nous proposons comme un but, mais de faire mûrir les conditions qui sont là, celles-là même dans lesquelles on se trouve impliqué, pour que d'elle-même la situation arrive à faire boule de neige et à nous transformer. Il faut transformer la situation, les données de la situation, de façon qu'elle incline progressivement dans le sens favorable et que de cet infléchissement, ben, les effets que je veux produire arrivent de même. Alors, je vais illustrer ce propos un peu abstrait de la manière suivante. J'ai une amie avec qui j'ai fait mes études qui est devenue religieuse. Et en fait, c'était assez impressionnant parce que en un an, je l'ai trouvée complètement changée. Quand on faisait nos études, quand on était en hippocane, c'était quelqu'un de très... parlait beaucoup, qui avait tout un tas d'affects, qu'un an après, elle n'avait plus du tout. Humilité, silence, etc. Et en discutant avec elle, alors justement, cette amie a écrit un article dans l'avant-dernier bulletin du collège supérieur que je vous invite à lire. Elle s'appelle Blandine Lagru. Et justement, en discutant avec elle, je me suis rendu compte que elle n'a pas pu avoir changé en décidant, je vais décider de devenir humble, silencieuse, réservée, tout ça. Enfin, moi, j'ai souvent décidé des choses comme ça, et puis je suis jamais arrivée. Mais je me suis rendu compte que c'est en changeant des choses objectives de sa situation, toute simple, porter un habit, porter une croix. Ça se prend dans un certain nombre de rites le matin, etc. Que d'elle-même, la situation l'avait amenée à changer. Quand vous portez un habit que vous ne pouvez plus vous habiller n'importe comment, déjà il y a une façon de se présenter aux autres qui est différente. Le regard des autres est différent, donc déjà l'autre ne m'aborde plus de la même manière, et ainsi, vous voyez, ça fait tout ça en fait change la façon dont je vais réagir. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui l'avait aidé, plus la grâce divine bien sûr, mais là de ça je ne peux pas trop parler, mais la grâce n'est pas passer par ce genre de stratégie, hein. Voilà, que c'était important, ces petites données, vous voyez, de la situation, et que ça l'avait aidé en fait à changer son caractère. Et deuxième chose, il faut aussi, ce qui rejoint en fait l'exemple, il faut aussi jouer sur la situation pour imprégner notre comportement. Pour modifier la situation et modifier aussi notre comportement, pas simplement notre action. Vous voyez, plutôt que de vouloir changer du tout au tout, allez, je pars je sais pas où, je change de métier, je plaque mon mari, il faut plutôt se fixer des petits rituels, en fait, quotidiens, des sortes de petits exercices qui vont petit à petit ouvrir l'espace, enfin, ouvrir notre quotidien sur autre chose. C'est une façon d'agrandir sa vie, mais vous voyez, qui n'est pas ironique, qui est justement modeste et silencieuse, mais qui va peut-être être plus efficace. Et souvent, l'occasion du changement, il est là, il est sous nos yeux, et on ne le voit pas forcément. Justement, dans Les Noces Rebelles de Sam Mendes, ça se termine de la manière suivante, c'est que l'héroïne ne voit pas, en fait, que l'occasion du changement, elle le porte en elle, c'est un enfant qui est en train de naître en elle, et en fait, dont elle avorte, et elle se tue en même temps. Bref, mais parfois, l'occasion du changement, elle est sous nos yeux et on ne la saisit pas. Il ne faut pas se focaliser sur l'événement, mais peut-être sur la répétition qui le prépare. Et l'exemple que je pourrais prendre, alors bon, on peut en discuter, il est très contestable, mais c'est celui de la conversion dans la foi. Ce que nous dit par exemple Pascal dans Les Pensées, c'est que, bon, avant d'attendre que, comme Claudel, un jour, Dieu vous tombe dessus derrière le pilier d'une église, vous pouvez néanmoins, vous voyez, vous agenouiller, prendre de l'eau bénite, prier, vous pouvez vous donner d'autres habitudes qui vont comme déblayer le terrain, qui vont comme vous donner d'autres passions petit à petit, d'autres envies, et qui vont créer comme une piste d'atterrissage ensuite pour la grâce, si vous voulez, et voilà. Mais par ces rites, on agrandit notre existence. Voilà la conception plus modeste du changement que je voulais proposer, donc qui n'est pas action, mais peut-être transformation. Voilà. Alors, pour conclure, je dirais qu'il faut reconnaître qu'il restera toujours aussi une part de passivité dans notre action. De ça, j'ai pas vraiment parlé, mais qu'il faut accepter aussi qu'agir, c'est poser des actes dans le réel qui nous échappent. On initie, mais qui nous échappe. Parfois, il y a loin de l'intention à l'action, de l'intérieur à l'extérieur. Parfois, nos actes ne nous ressemblent pas. Et c'était une autre idée que j'avais envie de développer, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Faut aussi accepter une part de passivité. Aussi accepter que sa vie, non seulement on peut pas la refaire du tout au tout, mais parfois on est plus fait, défait par ce qu'on fait. On est plus. Oui, on est. On peut accepter d'être défait par ce qu'on fait, et d'avoir été fait aussi, enfin, notamment en esprit.